Bonjour, bienvenue à Aujourd'hui sa parole, le podcast de Lectio Divina de la paroisse Saint-Thomas d'Aquin. Aujourd'hui, bien plutôt en ces jours de temps pascal, nous nous proposons de faire la Lectio Divina du livre des Actes des Apôtres. Cela évidemment convient avec le temps liturgique que nous traversons, ce temps pascal, et l'Église nous propose la lecture presque complète de ce livre, donc on ne fait que s'harmoniser, se coordonner avec le mouvement, avec le rythme de la liturgie, donc pendant toutes les messes de semaine du temps des sept semaines du temps pascal, et c'est la lecture des apôtres, et dans chaque dimanche également, il y a une lecture des actes. Alors, qu'est-ce que la Lectio Divina? Bien, vous avez une boîte à outils qui vous l'explique assez en détail dans le podcast, dans le balado du 30 novembre, aujourd'hui sa parole. Mais l'enjeu de la Lectio, c'est au fond de sortir d'une lecture morcelée de l'Écriture sainte. Souvent, on picore à gauche, à droite des passages. On lit, par exemple, notre Prions l'Église, qui est une très bonne chose, mais on ne lit pas la Bible. On ne lit pas in extenso un livre. Et on n'apprend pas à se servir aussi d'une Bible, c'est tout un univers. Alors, eh bien, la Lectio Divina, c'est mettre de côté tous les autres livres pour prendre ce livre sacré qui est la Bible, qui est Dieu dans sa parole. Et puis, passer du temps avec sa parole à lire, méditer. On peut même étudier la parole de Dieu quand on commence à se passionner pour elle, faire des liens avec d'autres passages de la Bible, et petit à petit, on finit par habiter la planète Bible. On finit aussi par s'enflammer d'enthousiasme pour cette parole. Comme dit le prophète Jérémie, « Quand tes paroles se présentaient à moi, je les dévorais. Elles faisaient les délices, la joie de mon cœur. » Alors, nous sommes dans ce mouvement, plutôt dans cette période entre Pâques et la Pentecôte. La Pentecôte elle-même est le fruit de Pâques. Si le Christ est mort et ressuscité, c'est pour briser cette loi de la condamnation. C'est pour ouvrir le ciel qui était fermé depuis le péché d'Adam et d'Ève et nos péchés. Et faire descendre cet esprit filial, cet Esprit Saint qui renouvelle la face de la terre, qui crée l'Église et qui nous réengendre, nous réconcilie avec Dieu et met dans nos cœurs, comme dit Paul, cet esprit de fils adoptif qui nous fait dire « Abba, Père ». Le livre des Actes des Apôtres s'inaugure avec l'événement de l'Ascension où justement Jésus, en prenant, si j'ose dire, l'ascenseur, nous promet de nous le renvoyer. Hein, il a dit, Jean-Baptiste a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. C'était au chapitre 1, verset 4. Alors les apôtres demandent, mais est-ce maintenant que tu vas rétablir le royaume? Et Jésus répond cette phrase qui résume d'une certaine manière tout le livre des Actes des Apôtres et aussi, d'une certaine manière, le mystère de l'Église. Il dit, Jésus donc dit, « Il ne vous appartient pas de connaître les temps et le moment que le Père a fixé de sa propre autorité, mais vous allez recevoir une force. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » Donc, les Actes des Apôtres, au fond, c'est le Big Bang de la Pentecôte, cette grande effusion de l'Esprit et le récit de la fondation de l'Église, de son extension dans tout le monde habité de l'époque, comme on disait en grec, l'oïkouméné. L'auteur des Actes des Apôtres, c'est comme vous le savez également l'auteur de l'Évangile selon saint Luc. Vous pouvez vous amuser, si vous voulez, à lire le dernier chapitre de l'Évangile de Luc et le premier des Actes des Apôtres. Vous allez voir que ça fait comme un seul récit et on est dans le même genre, comment je dirais, littéraire, le même style, le style de Luc. Vous savez que le symbole de l'évangéliste Luc, c'est le taureau. Pourquoi? Eh bien, parce que l'évangile de Luc commence au temple avec Zacharie qui vient offrir le sacrifice. et se termine parce que les apôtres étaient sans cesse dans le temple à louer Dieu. Or, le temple, c'est le lieu où on offre des sacrifices, des animaux et des taureaux en particulier. Donc, pour Luc, le temple de Jérusalem, mais surtout la ville de Jérusalem, a un sens symbolique très important. C'est là que commencent les actes des apôtres. Mais ce n'est pas là que ça finit. Où est-ce que ça se termine? Eh bien, ça se termine par la captivité de Paul à Rome. Est-ce que c'est une fin en queue de poisson? Non, mais c'est un indice important d'un déplacement, d'un décentrement du mystère de l'Église qui était symboliquement résumé dans la Jérusalem des Hébreux, des Israéliens, et qui va être maintenant à Rome. Rome va devenir comme la nouvelle Jérusalem, pas celle de l'Apocalypse, mais le cœur de l'Église et de l'Église catholique, et c'est cette réalité que l'on connaît depuis plus de 2000 ans. En général, on présente les actes des apôtres en 4 ou 5 sections, selon les auteurs. Moi, je vous en propose 4 sections, avec au centre le concile de Jérusalem. Il n'est pas appelé comme ça dans l'écriture, c'est la tradition qui l'a nommé comme cela, qui se trouve au chapitre 15, des versets 6 à 29. On va voir pourquoi c'est le cœur des actes des apôtres. Mais la première section, donc, commence par l'ascension et la Pentecôte, l'impulsion originelle, vous allez recevoir une force, et le texte dit que tous furent remplis de l'Esprit Saint, et on assiste, à la naissance de l'Église, la première prédication de Pierre, la première vague de conversion, et on voit décrit admirablement par Saint Luc le commencement de la vie communautaire, la vie de l'Église. Voici ce qu'on lit au verset 44 du chapitre 2. Tous les croyants vivaient ensemble, ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens et leurs possessions, et ils en partageaient le produit entre tous en fonction des besoins de chacun. Chaque jour d'un même cœur, ils fréquentaient assidûment le temple, ils rompaient le pain dans les maisons, ils prenaient leur repas avec allégresse et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et avaient la faveur du peuple tout entier. Chaque jour, le Seigneur leur adjoignait ceux qui allaient être sauvés. Cette première section s'achève avec le martyr d'Étienne, dont Paul est témoin, celui qui s'appelle encore Saul, Luc le mentionne, et la deuxième section, les chapitres 8 à 12, eh bien, nous décrit les premières persécutions avec aussi l'avènement de la belle figure de Saul qui se convertit sur le chemin de Damas au chapitre 9 et qui devient dans ce drame de la persécution qui est comme un surgeon étonnant de cette conversion et il devient apôtre. Donc l'Église se descend de Jérusalem, elle va à Judée, en Samarie, en Syrie, et encore au-delà, on va le voir dans les autres sections. Troisième section, chapitre 13 à 20, on y voit, et ça c'est vraiment Paul qui en est la vedette, comme Pierre en a été des deux premières, et on décrit les 3 voyages missionnaires apostoliques de Paul, 1 avant le concile de Jérusalem et 2 après. Quatrième section, 21 à 28, Paul est captif, transféré à Rome, où il sera martyrisé, nous enseigne la tradition, ce n'est pas mentionné dans le livre, ce n'est pas décrit dans les actes des apôtres. Mais si vous allez à Rome, aujourd'hui, vous verrez sur la place Saint-Pierre, devant la basilique, les 2 statues monumentales de Pierre et de Paul. Les 2 ont été martyrisés à Rome. Leur sang a été comme le sang de cette nouvelle fondation, de ce nouveau cœur de l'Église catholique qui siège sur le siège de Pierre à Rome. Je disais que au chapitre 15, donc au centre, il y a le concile de Jérusalem, parce que c'est lui qui va comme entériner l'action de l'Esprit-Saint. On pourrait appeler les actes des apôtres les actes de l'Esprit-Saint, disent certains auteurs, ou encore traditionnellement on l'appelle aussi l'évangile de l'Esprit-Saint. Ça ne veut pas dire qu'on est dans une nouvelle religion après Jésus, on serait passé à la religion de l'Esprit, pas du tout. C'est simplement que l'Esprit Saint va comme multiplier Jésus à travers les membres de son corps. Et quand vous lisez les différents épisodes de cette fondation et expansion de l'Église, on croit reconnaître le Christ à travers Pierre, à travers Philippe, à travers Paul. Et c'est l'Église, comme dit Paul dans l'Épître aux Éphésiens, qui est la plénitude du Christ. Le corps du Christ va se déployer et c'est le Saint-Esprit qui est au centre de toute cette action. Mais encore une fois, il ne fait que réaliser le Christ dans toute sa stature, comme dirait encore Saint Paul. Alors, ce concile de Jérusalem, donc, va entériner l'action de l'Esprit-Saint et affirmer donc la primauté de la grâce sur la loi de Moïse. Il va y avoir un débat assez vif parce que des juifs pieux estiment qu'on ne peut pas être juste, être fils de Dieu sans avoir reçu la circoncision. Voilà ce qu'on lit au chapitre 15, verset 7. Comme cela provoquait une intense discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. » Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de le porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés de la même manière qu'eux. Voilà des paroles historiques parce que Pierre vient de dire que l'alliance de Dieu avec les hommes n'est plus l'exclusivité, le privilège d'un peuple, le peuple d'Israël, mais qu'il s'étend maintenant, il s'étend maintenant à toute l'humanité, réalisant la prophétie de Joël, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair ». Et donc, la belle formule du Concile dit « L'Esprit Saint et nous-mêmes avons décidé ». Donc voilà, encore une fois, c'est le Saint-Esprit qui est au centre, mais qui réalise le Christ dans toute stature à travers les apôtres, les disciples, l'expansion de l'Église. Donc à partir du Concile, on peut dire que officiellement, pardon, l'Église est catholique au sens étymologique, elle est universelle. Alors nous prenons cette Lectio Divina en retard, on est déjà dans la troisième ou quatrième semaine de Pâques, je ne sais plus. Je vous propose pour rattraper ce retard de ne pas forcément relire tout ce qui manque dans les semaines qu'on a perdues, mais de quand même de prendre le temps de bien lire les deux premiers chapitres des Actes des Apôtres, avec l'Ascension, le Cénacle, la Pentecôte, la prédication de Pierre en particulier, qui est magnifique parce que c'est au fond la première prédication chrétienne. Celui qui avait renié Jésus trois fois, eh bien, se tient debout et il affirme ceci au verset 38 du chapitre 2. Convertissez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Donc Pierre appelle à la conversion, comme le Christ Jésus lui-même l'avait dit, c'est la plénitude des temps, le royaume de Dieu et parmi vous, convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Donc je vous invite à bien lire, méditer ces deux premiers chapitres, parce que souvent, dans un livre biblique, les premiers éléments contiennent comme en puissance, comme un ADN, tout ce qui va se déployer dans la suite. Et ce magnifique récit de la Pentecôte, cette prédication de Pierre, sont des éléments très savoureux que je vous invite à vous approprier. Ensuite, vous pourrez reprendre à partir d'aujourd'hui ou de demain, dans les jours qui viennent, les lectures à partir du jour de la messe, à partir des lectures du jour de la messe où nous en sommes. Voilà, et les prédications aussi que vous aurez à l'église soutiendront votre lectio divina. Bonne lecture à tous, que Dieu vous bénisse.